Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous plongeons dans une des périodes les plus tendues de l'histoire moderne, l'Europe à la veille de 1914.
Bonjour. Oui, une véritable poudrière.
Le décor est planté, hein. Le continent est un baril de poudre scindé en deux blocs qui se regardent en chien de faïence.
D'un côté, on a la Triple Alliance avec l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie.
Et de l'autre, la Triple Entente. Elle réunit la France, la Russie et la Grande-Bretagne.
Et au milieu de tout ça, en Allemagne, il y a une obsession qui grandit. C'est la peur de l'encerclement, l'Einkreisung.
L'Einkreisung, oui, c'est ce sentiment d'être pris en étau, c'est ça.
D'être étouffé par une coalition d'ennemis.
C'est tout à fait ça. Et cette peur, elle va devenir le moteur de beaucoup, beaucoup de décisions cruciales. Et c'est là que se trouve le cœur de notre analyse. Parce qu'à peine 20 ans plus tôt, sous le chancelier Bismarck, l'Allemagne était sans doute la puissance la plus en sécurité d'Europe.
Absolument.
La question est donc vertigineuse. Comment l'Allemagne a-t-elle pu, en si peu de temps, devenir l'architecte de son propre cauchemar? On va voir que cette peur, elle n'était pas tant un complot subi qu'une prophétie autoréalisatrice.
Oui, alimentée par une série de décisions, disons, catastrophiques. C'est toute la différence entre la réelle politique de Bismarck, qui est une sorte de jeu d'échecs prudents, complexe.
Très complexe.
Et la valse politique de l'empereur Guillaume II, une politique mondiale, elle, beaucoup plus agressive, et qui a fini, en fait, par renverser l'échiquier.
Alors, commençons par l'architecte de cet édifice, Otto von Bismarck. Après 1871, après l'unification, son objectif semble simple.
En apparence.
C'est ça, préserver la paix pour consolider le nouvel empire. Mais derrière ça, il y a une obsession permanente. Isoler la France.
Absolument. Bismarck sait que la France, humiliée par la défaite de 1870, la perte de l'Alsace-Lorraine, elle brûle d'un désir de revanche.
Forcément.
Mais seule, elle est inoffensive. Par contre, si elle s'allie à une autre grande puissance, là, elle devient une menace mortelle. Donc toute sa diplomatie, c'est de s'assurer que Paris ne trouve jamais cet allié.
Et pour ça, il ne se contente pas d'une simple alliance.
Pas du tout. Il tisse une véritable toile d'araignée de traité.
C'est un mécanisme d'horlogerie, j'ai l'impression.
C'est exactement ça. Le mot est juste. C'est un système d'équilibre des forces basé sur des alliances qui sont défensives et souvent secrètes.
D'accord.
Il y a d'abord l'entente des trois empereurs. Elle lie l'Allemagne, la Russie et l'Autriche-Hongrie. C'est sa façon de gérer leur rivalité dans les Balkans.
Malin. Mettre deux rivaux dans la même équipe pour les forcer à se parler.
Sous son arbitrage, bien sûr.
Mais il y a aussi la Duplice de 1879 avec l'Autriche-Hongrie. Et elle est dirigée contre la Russie. Ça ne semble pas un peu contradictoire, hein ?
C'est là toute la subtilité de Bismarck. La Duplice, c'est un parachute de sécurité pour Vienne, une garantie au cas où la Russie deviendrait trop agressive.
D'accord.
Mais le vrai coup de génie, la pièce maîtresse qui maintient tout ça, c'est le traité de réassurance de 1887.
Ah, le fameux traité.
C'est un pacte secret et absolument vital avec la Russie.
Secret, donc plein de double fond, j'imagine. Qu'est-ce qu'il disait, ce traité?
C'est un chef-d'œuvre de duplicité diplomatique. L'Allemagne et la Russie se promettent une neutralité bienveillante si l'autre est attaqué.
Concrètement?
Concrètement, si la France attaque l'Allemagne, la Russie reste neutre. C'est la garantie ultime contre le cauchemar de l'Allemagne.
La guerre sur deux fronts.
Le fameux Zweifrontenkrieg, voilà. Et en échange, si l'Autriche attaque la Russie, l'Allemagne reste neutre. Il jonglait avec ses alliances pour être sûr que, quoi qu'il arrive, la France et la Russie ne se retrouveraient jamais dans le même camp contre lui.
On a donc ce système bismarckien, une sorte de machine diplomatique incroyablement complexe, qui repose sur la vision d'un seul homme. On imagine que son successeur aurait marché sur des œufs.
Ah ben non, pas du tout, pas le moins du monde. En 1890, tout bascule. Le jeune et impétueux empereur Guillaume II, qui veut gouverner seul.
Il renvoie Bismarck.
Oui. Il y a cette célèbre caricature de l'époque qui montre le vieux chancelier qui quitte le navire de l'État. La légende dit « le pilote quitte le navire ». C'est d'une lucidité terrifiante.
Terrifiante, oui. Parce que le nouveau capitaine, Guillaume II, lance la Weltpolitik, la politique mondiale.
Fini la prudence, fini l'équilibre européen.
L'Allemagne doit avoir sa place au soleil. Ça veut dire des colonies, une influence mondiale et surtout une marine de guerre.
Et la toute première décision de ce nouveau capé, de l'avis de la plupart des historiens, une des plus grandes erreurs de la diplomatie moderne.
Laquelle ?
En 1890, le nouveau gouvernement allemand refuse, purement et simplement, de renouveler le traité de réassurance avec la Russie.
Attendez, là, j'ai du mal à saisir la logique. Ils détruisent la pièce maîtresse qui les protégeait d'une guerre sur deux fronts.
C'était de l'arrogance.
De l'incompétence.
C'est un mélange des trois. Les nouveaux dirigeants, autour de l'empereur, trouvaient le traité trop. Trop compliqué, trop bismarckien.
Ah d'accord.
Ils le jugeaient contradictoire avec l'alliance autrichienne. Et ils pensaient, avec une suffisance incroyable, que la Russie, monarchie conservatrice, ne s'allierait jamais avec la France républicaine et laïque.
Une erreur de jugement colossale.
Ils ont complètement sous-estimé à quel point ce traité était le seul rempart contre ce rapprochement.
Ils ont donc sacrifié un avantage stratégique majeur pour une vision du monde simpliste, en fait.
Exactement. Et les conséquences sont immédiates.
Et désastreuses.
Pour la Russie, ce refus est un camouflet.
Elle se sent isolée.
Isolée, méprisée par Berlin et menacée par l'alliance austro-allemande. Du coup, elle se tourne vers la seule autre grande puissance isolée sur le continent.
La France.
Évidemment.
Et pour la France, c'est une aubaine.
Inespérée. Après 20 ans d'isolement diplomatique forcé par Bismarck, la porte s'ouvre.
Elle ne fait pas que s'ouvrir, elle est enfoncée.
Les négociations commencent presque aussitôt. Des prêts financiers français massifs aident à moderniser l'armée russe.
Ah oui.
Et dès 1892, une convention militaire secrète est signée. En 1893, ça devient une alliance formelle.
Et voilà.
Le cauchemar de Bismarck est devenu une réalité. L'Allemagne est prise en tenaille. Le Zweifrontenkrieg, ce n'est plus une hypothèse. C'est la base de toute la planification militaire.
Donc, par une seule décision, l'Allemagne a créé la menace même que toute sa politique précédente visait à éviter. Mais ça ne s'arrête pas là. Elle ne va pas s'allier que la Russie.
Non, c'est là que la Weltpolitik devient vraiment contre-productive. Au lieu de calmer le jeu, l'Allemagne va accumuler les provocations. Deux aspects sont importants. D'abord, la course aux armements navals.
Lancée par l'amiral Tirpitz.
C'est ça. L'Allemagne se met à construire une flotte de cuirassés immense.
L'objectif, c'est de rivaliser avec la Grande-Bretagne. Mais pour les Britanniques, ce n'est pas juste une question de fierté. Il y a une doctrine stratégique derrière.
C'est le point crucial. Pour Londres, la politique étrangère repose sur un principe simple. Aucune puissance ne doit dominer seule le continent.
Et la Weltpolitik ?
La Weltpolitik agressive de Guillaume II, couplée à la puissance industrielle allemande, ça fait sonner toutes les alarmes à Whitehall. La flotte allemande, c'est la preuve tangible de cette ambition hégémonique.
Du coup, se rapprocher de la France devient une nécessité ?
Ce n'est pas un choix de cœur. C'est un retour pragmatique à leur politique d'équilibre, pour contrer la nouvelle menace.
C'est fou. L'Allemagne pensait se rendre plus forte avec ses navires, mais elle a surtout réussi à transformer l'arbitre de l'Europe, la Grande-Bretagne, en adversaire.
C'est une parfaite illustration de la prophétie autoréalisatrice. Et le second aspect, ce sont les crises coloniales. L'Allemagne tente de tester les nouvelles amitiés, notamment au Maroc.
Chasse gardée de la France.
Exactement. En 1905, c'est la crise de Tanger. Guillaume II débarque en grande pompe pour proclamer son soutien à l'indépendance marocaine. Une provocation.
Une provocation théâtrale pour humilier la France. Et le résultat ?
L'exact inverse de l'effet escompté. Loin de briser l'amitié franco-britannique, la crise la cimente.
Ah bon ?
Lors de la conférence qui suit, l'Allemagne se retrouve quasiment seule. La Grande-Bretagne soutient fermement Paris. La France sort renforcée.
Et il récidive quelques années plus tard ?
Oui, en 1911, avec la crise d'Agadir. L'Allemagne envoie une canonnière, le Panther, dans le port d'Agadir.
Encore une fois, la diplomatie du coup de poing sur la table.
Et encore une fois, c'est un échec. La Grande-Bretagne réagit encore plus vivement. Il craint que l'Allemagne veuille installer une base navale sur l'Atlantique.
Et le résultat elle-même ?
Le même. L'Allemagne doit reculer et les liens entre Paris et Londres se transforment en coopération militaire de plus en plus étroite.
C'est fascinant. Chaque tentative de l'Allemagne pour briser son encerclement ne fait que resserrer les mailles du filet.
Pièce par pièce.
C'est comme ça que se forme la triple entente. D'abord, l'entente cordiale de 1904 entre la France et le Royaume-Uni.
Qui met fin à des siècles de rivalité quand même.
Et puis, en 1907, le coup de théâtre final, l'entente anglo-russe. Les deux grands rivaux du grand jeu en Asie qui s'accordent.
La menace allemande est devenue si pressante qu'elle a réussi à réconcilier le lion britannique et l'ours russe. Là, le puzzle est complet. Les deux blocs de 1914 sont en place.
Ce qui nous ramène à la perception allemande, comment est-ce qu'ils vivent cette situation qu'ils ont largement contribué à créer?
Ils la vivent très mal. Cette peur de l'Ankreisung devient une sorte de paranoïa nationale.
Vraiment?
Oui, la conviction qu'un complot est à l'œuvre pour détruire l'Allemagne. Il se voit comme une forteresse assiégée, une nation jeune, dynamique, privée de sa place au soleil par de vieilles puissances jalouses.
Et c'est là qu'intervient cette phrase d'un diplomate britannique, G.M. Trevelyan, qui est citée dans nos sources. Une formule, je trouve, incroyablement percutante.
Laquelle?
L'encerclement, tel qu'il était, était d'Allemagne elle-même.
C'est la synthèse parfaite. L'encerclement n'est pas le produit d'un plan machiavélique. Chacune de ces nations avait ses propres peurs.
Bien sûr.
Mais c'est la politique allemande, perçue comme agressive, erratique, menaçante, qui a fourni le ciment pour les unir. En repoussant la Russie, en défiant la suprématie navale britannique, l'Allemagne a donné à ses voisins une raison puissante de faire cause commune.
Et cette mentalité de forteresse assiégée, ça a eu des conséquences militaires très concrètes, j'imagine, ça a façonné leur plan de guerre.
Une conséquence directe et fatale, l'élaboration du plan Schlieffen.
Ah oui.
Face à la certitude d'une guerre sur deux fronts, l'état-major allemand conçoit un plan d'une audace historique et d'une rigidité extrême.
L'idée, c'est d'écraser la France très vite.
En 6 semaines, en passant par la Belgique neutre pour contourner les défenses françaises. Et une fois Paris pris, on transporte l'armée par train vers l'Est pour affronter les Russes, plus lents à mobiliser.
C'est une stratégie du tout ou rien qui ne laisse aucune place à la diplomatie, une fois que la machine est lancée.
Il n'y a plus de retour en arrière possible. La mobilisation signifie la guerre.
Le plan militaire dicte la politique.
Et non l'inverse. C'est la logique de la guerre préventive, la peur que le temps joue contre l'Allemagne. Cette mentalité du « frapper le premier avant qu'il ne soit trop tard » va peser très très lourd dans la crise de juillet 1914.
C'est donc l'aboutissement tragique de cette peur de l'encerclement. Pour résumer, on part d'un système bismarckien extraordinairement prudent.
Oui, qui visait à maintenir la paix.
Pour garantir la sécurité de l'Allemagne, et on arrive, en moins d'une génération, à la Weltpolitik de Guillaume II, qui, en voulant affirmer la puissance allemande, a réussi l'exploit de l'isoler et de coaliser tout le monde contre elle.
Le point de bascule, le péché originel, c'est vraiment le non-renouvellement du traité de réassurance en 1890.
C'est clair.
C'est l'acte fondateur qui a fait voler en éclats l'équilibre de Bismarck, et qui a enclenché une réaction en chaîne inéluctable. C'est un de ces moments dans l'histoire où l'on a envie de crier pour les avertir.
Une seule décision.
Une seule signature, et la trajectoire du continent change pour toujours. Bismarck jouait aux échecs. Guillaume II a balayé les pièces de l'échiquier.
Et ça nous laisse avec une dernière question pour la réflexion. Nos sources montrent bien comment la diplomatie allemande a créé les conditions de son propre isolement. Mais on peut se demander, dans quelle mesure les puissances de l'entente ont-elles simplement réagi à une menace ?
Ou ont-elles aussi contribué ?
Ou ont-elles aussi, par la rigidité de leurs propres alliances, contribué à transformer une situation dangereuse en une guerre inévitable ? Autrement dit, une fois l'encerclement devenu une réalité, est-ce qu'il y avait encore une issue pacifique possible ?
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.